Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir encore. Oui, nous bénissons Dieu qui nous fait grâce d'être là encore à ce moment. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour du séminaire qui a été introduit le dimanche passé avec comme thème pour une indépendance financière dans la marche avec Dieu. Je suis curieux de savoir est-ce qu'il y a ceux-là qui sont là pour la toute première fois. Ah, merci. Nous disons gloire au Seigneur comme il y a ceux qui ont été invités pour la première fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons développer le sujet qui est intitulé « L'entrepreneuriat, une voie incontournable pour atteindre et maintenir l'indépendance financière ». C'est là après que nous ayons développé le premier jour beaucoup sur c'est quoi l'indépendance financière, qu'est-ce que cela implique et comment nous pouvons y arriver. Alors nous avons trois passages bibliques qui vont nous guider aujourd'hui, que nous allons lire un peu après, Genèse 2:15. C'est un passage qui est même le fondement de cet enseignement, parce que c'est l'institution divine, l'instruction divine que nous avons reçue, nous les humains. C'est la mission que Dieu nous a donnée, de cultiver et de garder tout ce qu'il a mis en notre possession. Et d'autres lectures vont suivre. Alors je vais commencer par résumer brièvement ce qui était la journée d'hier. Si vous vous rappelez bien, nous avons parlé de quelques voies pour sortir de la dépendance financière. Et nous avons parlé du travail, de la culture de l'épargne et de la sagesse face à l'endettement. Et par là du travail, nous avons vu à travers Ecclésiaste 1:6 que nous les chrétiens, nous devrions mettre à profit chaque journée, sauf les dimanches, pour développer une activité qui génère du revenu. Et cela de tôt le matin jusqu'à tard dans la soirée. Et nous avions vu que souvent, nous ne capitalisons pas comme il le faut le temps qui est mis à notre possession. Par rapport à la culture de l'épargne, le deuxième point que nous avons vu hier pour arriver à l'indépendance financière, nous avons été guidés par les proverbes 6:6-11 et nous avons été appelés à apprendre de la sagesse de la fourmi, ce qui est un défi pour nous les humains, parce que la fourmi, elle est très petite, elle a très moins de capacités par rapport à nous les humains, pour que nous puissions apprendre de sa sagesse, elle qui n'a ni maître, mais qui peut pendant des bons moments amasser des provisions qui vont l'être utiles pendant les mauvais moments. Et nous avons vu pour cela que chacun de nous devrait développer quatre types d'épargne. Nous avons parlé de l'épargne des précautions, donc c'est l'épargne que vous avez sur vous à tout moment. S'il y a une circonstance imprévue, vous pouvez y toucher. Nous avons parlé de l'épargne des sécurités, c'est l'argent que vous devriez avoir pour votre sécurité. Et nous avions dit que l'épargne de sécurité devrait constituer 6 fois votre revenu mensuel. Donc si votre revenu mensuel est de 100 $, votre épargne de sécurité devrait être d'au moins 600 $. Nous avons parlé de l'épargne dédiée, c'est l'épargne que vous constituez pour un objectif donné que vous êtes fixé. Ça peut être un investissement ou ça peut être une acquisition donnée, acheter une parcelle, construire une maison, ainsi de suite. Et à la fin, nous avons parlé de l'épargne pour la retraite. C'est de l'épargne que nous devrions tous fournir l'effort de constituer petit à petit pour qu'au moment de la retraite, nous puissions avoir assez de provisions pour nous prendre en charge, parce que ce sera un moment où nous serons un peu fragiles, nous serons peu productifs pour être à mesure de produire du revenu pour subvenir à nos besoins. Et pour clôturer hier, nous avons parlé de la sagesse face à la dette ou à l'endettement. Et nous avons été guidés par deux passages, Proverbes 22, 26 à 27, où il nous a été dit que dans la mesure du possible, nous devrions éviter la dette. Dans la mesure du possible, parce qu'il y a des circonstances qui nous y obligent aussi. Et quand cela arrive, nous avons vu comment on devrait s'y prendre. C'est de prendre la dette seulement pour des dépannages de court terme ou pour un investissement après des bonnes analyses que les risques ne sont pas trop élevés et surtout éviter de mettre en hypothèque plus de 50% de ce que vous avez accumulé. Nous avons aussi vu à travers Exode 22-25 que nous les chrétiens, nous devrions nous prêter entre nous mutuellement sans intérêt, ce qui éviterait à nos bien-aimés frères et sœurs de porter le poids de l'endettement, parce que ça pèse quand même lorsque vous prêtez 100 $ et qu'encore ça doit générer des intérêts. Donc au lieu d'avoir une charge de 100, vous avez une charge de 110 ou de 120. Donc entre nous chrétiens, nous devrions fournir un effort de nous prêter entre nous, mais aussi pour ceux qui se font aider par cette voie-là, devraient fournir un effort d'être fidèles et honnêtes dans les remboursements. Alors aujourd'hui, nous allons développer ce thème sur l'entrepreneuriat, une voie incontournable pour une indépendance financière. Et nous allons développer cela à travers 5 points. Le premier point, ce sont les fondements bibliques de l'entrepreneuriat, parce que nous sommes ici dans un contexte chrétien. Le deuxième point, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Et le troisième point, c'est pourquoi entreprendre dans notre contexte. Et au quatrième point, nous allons voir quelles sont les options pratiques pour entreprendre dans notre contexte. Et enfin, quels sont les facteurs favorables à la réussite dans l'entrepreneuriat? Alors, nous allons encore revenir à la lecture biblique en introduisant les premiers points sur les fondements bibliques de l'entrepreneuriat. Nous allons retourner dans Genèse 2:15 que nous avons lu plusieurs fois, où il est dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. C'est un verset que nous ne pouvons pas cesser de lire. Pourquoi? Parce que c'est la mission pour laquelle nous sommes même sur terre. Donc c'est notre raison même d'existence. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Nous avons des experts en français. Papa qui, oui. Quand on dit pour, ça veut dire quoi en français? C'est le but, voilà. Nous sommes bénis d'avoir des experts en français qui peuvent confirmer que c'est la raison. Donc, c'est le but de notre existence. Donc, nous n'existons pas par hasard. Et c'est important que chacun de nous puisse intérioriser ceci parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Donc, nous avons reçu de Dieu une double mission. Premièrement, de cultiver. Et dans le mot cultiver, nous voyons la reproduction. Et j'ai beaucoup aimé parce que le modérateur nous a parlé de la reproduction. Que nous ne sommes pas seulement appelés à nous reproduire, nous, comme humains, pour nous multiplier. Mais nous avons vu que nous devons être des co-multiplicateurs avec Dieu. Et nous avons vu que Dieu ne nous demande pas de faire un miracle. Il demande juste d'agir. C'est juste planter ou s'aimer. Et le reste du travail est fait par lui. C'est un Dieu qui est merveilleux. Et dans cette mission-là, déjà, nous voyons l'entrepreneuriat, dans la mission de cultiver. Et nous allons voir dans la suite comment nous devrions nous y prendre. Dans la deuxième mission que nous tirons de ce verset de Genèse 2:15, c'est la mission de garder, c'est-à-dire assurer la bonne gestion. Dans les mots garder, il y a gérer. Parce que l'entrepreneuriat va de pair avec la gestion. Je connais des gens qui sont des très bons entrepreneurs. Ils ont des très bonnes idées. Ils peuvent commencer des très bons projets. Mais ils sont nuls en gestion. Et chaque fois qu'ils commencent quelque chose, ça peut bien démarrer. Mais dans les parcours, il y a chute parce qu'ils ne sont pas bien en gestion. Et l'entrepreneuriat va de pair avec la gestion. J'ai eu à m'entretenir avec plusieurs personnes qui me disent, moi je suis contre l'entrepreneuriat parce que j'ai commencé, ça a échoué. J'ai vraiment peur de ça. Mais lorsque vous essayez un peu d'écouter la personne dans les détails, à travers la technique d'écoute, vous allez réaliser que c'est cette même personne qui était à la base de son échec. Je donne un exemple. Vous avez commencé un petit commerce sans calculer ce qu'on appelle retour sur investissement. Vous avez mis tout le poids de vos charges familiales sur ces petits commerces-là, au point où vous n'êtes plus en mesure de vous approvisionner. C'est comme si vous avez acheté une vache et avant qu'elle commence à produire du lait, vous avez envie de prendre la viande. Un jour, vous coupez d'abord les pieds, une jambe. L'autre jour, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas cette vache peut en finir où. C'est souvent ça la cause de l'échec de la plupart de nos projets. Donc vous avez commencé un projet, mais vous n'avez pas bien calculé les rendements dans les temps. Ceux qui vont vouloir approfondir à dehors de ces enseignements, il y a ce qu'on appelle les retours sur investissement, les taux de rentabilité. Quand vous commencez un projet, vous devez vous rassurer que vos dépenses sont en dessous du taux de rentabilité. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle aussi le point mort ou l'essai de rentabilité. C'est le moment à partir duquel votre business ou votre projet peut commencer à vous produire du lait. Et j'aime beaucoup l'exemple de la vache laitière parce que quand on achète une vache, il faut qu'on patiente, qu'on la nourrisse bien pour qu'elle commence à produire du lait. Alors Dieu attend de nous d'être des agents de la multiplication par l'entrepreneuriat. Je suis revenu sur l'exemple du maïs. Si vous voyez la première photo, c'est une plantule de maïs qui aurait quelques semaines. Et 3 mois après, vous voyez ce que ça va générer. Un produit bien prêt à consommer. Mais ce travail qui le fait, c'est Dieu. Notre mission se limite peut-être à planter, sarcler, arroser. Mais le reste, c'est Dieu qui le fait. Nous ne faisons aucun miracle. Il est vrai, même si aujourd'hui on a inventé les engrais, mais lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, la Bible disait ceci, vous mettrez votre champ en repos pendant combien d'années? Pendant 7 ans, c'est ce qu'on appelle mettre les champs à jonchère. Nous avons étudié ça à l'école primaire. Donc tout était prévu. Et toutes ces techniques, quand elles sont utilisées, le rendement est très élevé. Donc quand vous cultivez un champ pendant 7 ans, et puis vous le laissez à repos, vous y revenez encore, les rendements restent au top. Et Dieu ne nous demande pas de faire un miracle, mais c'est juste de planter et lui-même va faire le reste. Nous avons vu même hier que quand vous faites un restaurant, que c'est toujours Dieu, c'est Dieu qui va vous amener les clients. Si vous ouvrez un cabinet de consultance ou d'expertise, vous investissez de moyens, c'est Dieu qui amène des clients. Ou soit vous avez un taxi, voiture, c'est Dieu qui va faire que même votre voiture puisse faire une année sans faire un accident. Parce que moi, chaque fois que je conduis dans les embouteillages, je bénis Dieu quand j'arrive et on ne m'a pas cogné. Parce qu'il arrive qu'on vous cogne et que demain vous allez au garage, ce sont des grosses dépenses que vous allez engager. Alors, parlant toujours des fondements bibliques de l'entrepreneuriat, nous allons lire un autre passage dans Genèse chapitre 30. Nous aurons pu lire tous les chapitres pour comprendre les contextes. J'ai à lire tous les chapitres. Mais nous allons lire seulement Genèse 30, de 27 à 30. Nous lisons ceci. Labam lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes yeux. Maintenant, quand travaillerai-je pour moi et ma maison ? » Je pense qu'on peut s'arrêter là. Là, nous sommes dans un contexte biblique où qui était serviteur de l'autre. Et vous savez pourquoi Jacob a servi Labam? C'était pourquoi? Pour payer la dot. Il y avait Rachel et Léa. Et après avoir épuisé les 14 ans, Labam ne voulait pas lâcher. Tellement Jacob a été une source de quoi? De bénédiction. Il voulait qu'il continue. Et il était bien payé. Il était apparemment bien traité. Parce qu'il lui a demandé, au-delà de ce que je t'ai donné, quel est le salaire que je peux te donner pour que tu fasses quoi? Pour que tu restes. Ça vous est arrivé, vous voulez démissionner. On vous pose la question, est-ce que vous voulez qu'on double le salaire? Et c'est souvent ce que beaucoup d'employeurs ont comme technique. Pendant que vous êtes là, ils vous laissent comme ça. Mais le jour que vous annoncez la démission, ils vous disent que je peux doubler. Il y en a même à qui on a proposé combien? Les triples pour rester. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de cette décision, de cette expérience de Jacob avec Labam? Le travail que nous avons aujourd'hui, c'est une opportunité d'amasser un capital pour nous lancer dans une activité entrepreneuriale demain. Donc, si vous êtes travailleur aujourd'hui et que vous recevez un revenu, faites-en soit une opportunité d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est courant d'avoir un médecin qui quitte un hôpital pour créer son centre médical parce qu'il a eu l'expérience et il a amassé un peu de capitaux pour le faire. Mais bien sûr, d'une façon à ne pas créer des dégâts là où vous êtes, de là où vous êtes parti. Et donc, si vous avez aujourd'hui un emploi, ne faites pas en une routine jusqu'à la fin de votre carrière professionnelle, mais dites-vous, je suis en train de prendre une expérience et amasser des capitaux qui peuvent m'aider à me lancer dans une activité entrepreneuriale. Pourquoi nous disons ça? Parce que les expériences ont prouvé que le salaire est destiné uniquement à faire quoi? À financer les dépenses d'autosubsistance. En tout cas, dans la plupart des cas, si vous êtes salarié, si vous calculez bien, les salaires est calculé de façon à financer votre coût de vie. J'ai parlé avec un haut fonctionnaire des Nations Unies qui m'a révélé que même quand on vous fait expatrier au quartier général des Nations Unies, c'est à New York, on vous donne un traitement de 40,000-50,000 dollars. On vous met aussi dans un rythme de vie qui va tout ronger. Parce qu'on va vous donner 40 000, mais on va vous dire pour votre sécurité, vous devez fréquenter uniquement tel type d'endroit. Ou bien vos enfants ne peuvent pas étudier dans tel type d'école. Et déjà, peut-être la scolarité d'une année d'un enfant va prendre un mois. Et autant d'autres chaînes de dépenses, des assurances qu'on sauve, vous allez voir qu'il n'y a rien qui reste. C'est pour ça que vous allez réaliser que plus les salaires augmentent, plus les dépenses aussi augmentent. C'est comme ça qu'on a mis en place la sécurité sociale. Pourquoi la sécurité sociale? Parce que les salaires sont destinés à la consommation. Seuls ceux qui ont eu la sagesse d'investir une partie de leur sagesse, disons de leur salaire, de leur revenu, ont eu la grâce de relever ces défis. Mais ne vous dites pas que moi je vais rêver, aujourd'hui je gagne 100, quand j'aurai 500 je serai bien. Quand vous arrivez à 500, vos dépenses vont aussi monter. Quand vous arrivez à 1000, ainsi de suite, il y a des gens qui vous touchent 5000, 10000, mais quand vous les écoutez, ils ont des problèmes financiers. Il y a même certaines recherches qui ont prouvé que les gens qui prennent souvent des crédits sont ces gens-là qui ont des gros salaires. Et certains ont des petits salaires, ils savent les gérer comment? Sagement. Et votre bonheur ne dépendra même jamais de ça, avoir un grand salaire. Mais de comment vous le gérez, comment vous investissez une partie de ce que vous gagnez pour qu'au moment prochain, vous puissiez avoir des ressources qui vous prennent en charge même quand vous ne produisez rien. Deuxième leçon que nous tirons de l'expérience de la séparation de Laban et Jacob, c'est que la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas toujours soutenue par notre entourage. Donc, au moment où vous allez vous décider, ne pensez pas que votre entourage va vous acclamer. Vous aurez plein de gens qui vont vous dire, maintenant vous allez vivre comment? Parce que je dois vous révéler que les débuts d'un entrepreneur, c'est toujours très difficile. Ça a toujours été une expérience très difficile lorsqu'on commence une nouvelle activité entrepreneuriale, surtout que vous n'avez que ça que comme source de vie. Ça a toujours été très difficile et surtout que vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont vous acclamer, qui vont vous accompagner. Le début de tout entrepreneur est souvent difficile, mais les bons résultats à long terme soulagent. Mais ces résultats arrivent quand? C'est des fois après 3 ans, des fois après 5 ans, des fois après 10 ans, voire même plus. Il faut avoir le temps d'écouter cela qui émerge aujourd'hui. Par quel stress ils sont passés pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Troisième verset, dans le cadre du fondement biblique de l'entrepreneuriat, nous allons lire Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27, nous voyons ceci. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais ici, on parle de quelle activité? Vous voyez, on n'a pas parlé de l'emploi. On parle de quoi? De l'activité. Parce que nous avons parlé d'une nuance hier entre l'emploi et l'activité. L'emploi, c'est lorsque je me mets au travail de quelqu'un d'autre pour que j'attende de lui quoi? Une rémunération. Malheureusement, dans notre contexte en RDC, notre cursus scolaire, académique, ne nous prépare pas à l'activité. Je me souviens, lorsque nous étions en deuxième année de licence, on se disait entre nous, moi je serai ceci, moi je serai cela. En tout cas, je ne me souviens pas, pendant nos débats quand on était en deuxième licence, je ne me souviens pas écouter mes amis entre nous nous dire que moi je vais pratiquer cette activité. On se disait, moi je vais postuler, certains disaient je serai au niveau des Nations Unies, d'autres disaient je vais aller dans les banques, je vais aller dans les multinationales. C'était ça les rêves que nous avions. Et nous avons été préparés à rêver dans ce sens-là. Mais nous n'avons pas été préparés à exercer une activité. Et ici, nous réalisons que chaque chrétien devrait fournir un effort pour entretenir une activité génératrice de revenus et être en activité d'un tôt le matin jusqu'à tard le soir. De tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et hier, nous avons dit ceci, que chacun de nous devrait fournir un effort de faire une évaluation chaque fin de journée. Qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à hier? C'est quoi ce que j'ai réalisé aujourd'hui qui va m'apporter un revenu additionnel au courant de ce mois ou au courant de cette année? Il arrive des fois que nous avons des journées stériles, donc nous nous réveillons et nous arrivons à la fin de la journée, nous n'avons rien produit. Donc nous n'avons pas exercé une activité. Et même quand nous sommes en vacances, c'est vrai, les vacances, nous les méritions, mais il y a des activités qui vous déstressent même. Je vous ai partagé l'expérience d'entretenir un potager. C'est un travail manuel, mais qui vous soigne aussi d'être en communion avec la nature. Alors, au deuxième point, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs définitions, mais celle-ci, c'est la mienne. C'est le fait d'initier une activité génératrice de revenus ou innover une activité génératrice de revenus existante. Initier, c'est quoi? Vous commencez quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez entrepris. Et les Anglais disent to undertake. Donc, commencer quelque chose de nouveau qui vous rapporte du revenu. Ou bien innover ce qui existe. Dans les mots innover, il y a améliorer. Ou bien faire autrement. Dans les mots innover, il y a corriger. C'est par exemple, j'arrive dans un restaurant, je constate que la cuisine n'est pas bien faite. Mais il y a trop de clients. Je vais créer un restaurant dans les voisinages. J'avais amélioré et les clients vont venir chez moi. J'ai une expérience que je vais vous partager. Quand je quittais deuxième CO pour aller à troisième secondaire, pendant les vacances, on était à Virunga et j'ai fait le commerce de pain. Donc on faisait une tige avec des chevrons, on fait des sticks comme ça, des traverses, on met des clous et on étalait de pain. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme inspiration? Comme pour dire que l'entrepreneuriat est inné pour certains, j'ai eu l'inspiration de me réveiller chaque fois tôt le matin. Il y avait une boulangerie ici, là où il y a la BOA, on appelait ça la gourmandise. Qui s'en souvient? Voilà. Alors, je me réveillais à 5 heures juste. J'habitais Virunga, proche de l'hôpital de la province de Kavirunga. Alors, je faisais les jogging le matin. Je courais en pied, comme avec les gens qui faisaient les sports. Et à 5h30, j'étais à la boulangerie. Alors, je prenais du pain qui venait fraîchement de quitter le four. Et à 5h45, je prenais la moto. 5 minutes, 5h50, j'étais le premier à étaler le pain. Et du pain qui vient fraîchement de la boulangerie. Nous étions plusieurs qui vendaient du pain, mais chaque fois mes pains s'épuisaient, les autres ont encore leur stock plein. Mais qu'est-ce que j'avais juste fait de particulier? C'était juste innover, faire de sorte que moi j'ai du pain qui est frais. Et ils vendaient le pain qu'ils ont amené hier, même avant-hier. Et j'ai commencé avec 5$ en début des vacances à juillet. Je crois que c'est entre 97, 98 ou 96, 97. Il faut que je me souvienne bien. Et après 2 mois de vacances, j'avais sur moi plus de 100$. J'ai multiplié de combien? De 5 dollars à plus de 100 dollars. Plus de 20 fois. Avant ça, je vendais du kérosène porte à porte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu grossiste de kérosène. Je suis allé acheter des bidons de kérosène. Et ce jour-là, j'ai dit à mes parents, cette année, vous ne m'achetez rien. J'avais de l'argent en abondance. Je suis allé acheter les meilleures fournitures scolaires. J'ai acheté à mon goût. Si c'est les cahiers, j'ai acheté les meilleurs cahiers, cartables, les meilleurs cartables. Et ensuite, je suis resté grossiste jusqu'à 6e secondaire. Et j'ai même mis une photo où j'ai mis une affiche chez nous. Et maintenant, tous mes amis qui ont circulé pour vendre le kérosène ont commencé à venir acheter chez moi comme grossiste. Ça, c'est juste un petit exemple. Quand vous innovez, on pense que vous avez mis dedans des ingrédients louches. Mais sachez que les clients sont exigeants de la qualité. N'est-ce pas, nous voulons tous de la qualité. Alors l'innovation, ça implique aussi la qualité. Donc vous y mettez de la qualité au point où vos consommateurs sont satisfaits. Quand je faisais le pain, là, comme j'épuisais mon stock le matin, les soirs, les autres avaient les stocks du matin. Mais moi encore, à 15h, j'allais à la boulangerie. À 16h encore, je mettais du pain nouveau. Et quand les gens venaient à l'hôpital, ils regardaient, ils allaient vers mon étalage. On pouvait croire que j'avais de la magie, mais c'était juste l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? C'est lorsque nous avons déjà entrepris dans tous les domaines, il va rester qu'innover. Aujourd'hui, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique, en Europe, en Occident, pour entreprendre, il faut innover. Donc, il faut voir quelles sont les faiblesses de iPhone, je ne sais pas combien, pour faire, je ne sais pas, une autre version qui va attirer encore les clients. Mais nous avons l'avantage chez nous pouvons encore avoir la définition traditionnelle de l'entrepreneuriat. Parce qu'ailleurs, tout est déjà fait. Ce qui reste, c'est seulement de faire quoi? D'innover, de corriger les faiblesses des autres. Même les églises devraient aussi innover, entre guillemets, parce qu'il arrive que nos voisins se plaignent des bruits. Et là, on devrait arriver à avoir un temple acoustique. Donc, celui qui est dehors n'écoute pas les sons qui est à l'intérieur, parce qu'il va arriver un moment où on va commencer à aller au tribunal, où les voisins vont dire, moi, je veux que le volume de l'église n'arrive pas chez moi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, ce n'est pas le cas. Quand on fait l'ouange adoration forte, il y a des voisins qui, surtout quand on a des veillées, comme on vient de lever le couvre-feu, vous savez ce que ça fait aux voisins. Alors, pourquoi on entreprend? C'est en réponse à un problème vécu par une masse de personnes ayant le pouvoir d'achat de payer votre solution. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vendre une solution à celui qui a un problème. Les problèmes que j'ai, c'est quoi? J'ai faim, et vous allez résoudre ces problèmes en me faisant quoi? Un restaurant. Mais il faut que j'ai faim et que j'ai la capacité de payer votre repas. Ça, nous parlons de pouvoir d'achat. Afin de contribuer au développement socio-économique. Ce développement socio-économique, ça vous touche vous et les personnes qui vous entourent. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la clé du développement parce que les pays qui le sont aujourd'hui, ce n'est pas par seulement les efforts des gouvernants publics, mais c'est surtout par les apports des entrepreneurs. Et Goma, c'est un bon modèle. Si nous avons aujourd'hui les routes pavées, ce n'est pas seulement grâce à l'effort public, mais c'est surtout par des entrepreneurs qui s'y sont engagés. Maintenant, troisième point, nous allons voir pourquoi entreprendre dans notre contexte. Premièrement, nous avons beaucoup de problèmes non encore résolus dans notre milieu. Et ces problèmes peuvent être résolus par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, lorsque nous vous disons que les œufs que nous consommons, chaque fois que j'achète les œufs traditionnels que nous appelons Maya Kitchen, je pose la question que ça vient d'où? C'est vrai, il y en a qui mentent que ça vient d'ici, mais la plupart me disent que ça vient de l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous allez acheter une chèvre à Kaembe ou, je ne sais pas, dans un autre marché des chèvres, posez la question, ça vient d'où? Vous direz que ça vient de l'Ouganda ou du Rwanda. Ça veut dire quoi? Nous avons un grand problème de sous-production. Nous ne produisons pas ce qu'ils nous consomment. Aujourd'hui, même les Tanzaniens nous envoient du riz mal emballé. Vous n'êtes pas choqué quand vous achetez le riz maintenant de Tanzanie, emballé à vrac. Donc, dans un sac réutilisé, et on dit ça va en RDC. Et ça traverse la frontière, ça passe par l'OCC. Je ne pense pas que ceci soit le cas dans un autre pays au monde. Parce que quand un produit agricole quitte une frontière à une autre, il y a des standards. Mais chez nous, on sait que les Congolais en ont besoin parce qu'ils sont en déficit. Et moi, ça me choque quand je vois ces sacs de riz, parce que je suis curieux de voir ça s'est produit par qui. Je vois, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a rien. Et nous sommes pressés d'acheter parce que nous ne produisons pas. Nous importons presque tout ce que nous consommons. Donc l'entrepreneuriat devrait nous aider à relever ces défis. Dans le domaine des services, nous avons presque un sérieux souci de qualité dans tout ce que nous faisons. Et quand vous voyez à thème des services, vous allez voir qu'il y a des soucis. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous connaissez de quoi je parle. Ceux qui s'y sont lancés sont loin de répondre efficacement aux besoins. Donc, il y a encore de l'espace pour vous. Il y avait récemment une offre, je crois, des FAO pour acheter 30 000 génitaires de lapins. Et un lapin était payé à 10 dollars. Et vous savez quoi? Toute la partie est de la RDC, on a fait appel à tous ceux qui ont des lapins. On n'a pas dépassé 15 000. Ça ne vous révolte pas. Alors, qui élève du lapin ici? Des lapins. Ah, gloire au Seigneur. Les lapins, c'est maintenant un des domaines dans lesquels vous pouvez entreprendre et faire beaucoup d'argent. Parce que non seulement les lapins, c'est la viande qui a beaucoup de vertus au niveau sanitaire, au niveau alimentaire, et puis ça consomme les herbes, donc c'est naturel. Ça ne prend pas trop de produits toxique comme le poule. Et aujourd'hui, si vous avez 1000 lapins, le marché est là. Il y a des hôtels qui vont acheter, il y a des projets qui financent la sécurité alimentaire, qui achètent des génitaires pour distribuer aux ménages. Souvent, ils cherchent des quantités qu'ils ne trouvent pas. Si je parle de l'élevage des poules, si chaque ménage devrait consommer, bien si chaque Congolais devrait consommer un œuf par semaine, nous sommes combien de millions de Congolais? 80 millions. Donc on devait produire combien des œufs? 320 millions. Mais si vous voyez la production intérieure des œufs en RDC, je ne sais même pas si on arrive à 10 millions de pièces. Vous voyez qu'on est dans un rapport, on est à 1/30 de besoin. Et si vous voulez, si vous avez déjà manqué quoi faire, allez commencer un poulailler qui fait des œufs, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui font les poules, mais il n'y a pas ceux qui font des œufs. Donc des fermes avicoles qui font la production des œufs à grande échelle. Et le marché est là et il est très ouvert. Nous avions fait un challenge dans un séminaire similaire à la paroisse Sœur de Goma Ouest et nous avions recommandé à chaque fidèle d'aller acheter une poule qui peut lui pondre des œufs et chaque semaine que chacun amène son stock à la paroisse, il peut faire une coopérative. Il y en a ceux qui ont commencé et jusque-là, toutes les quantités qui sont en train d'être produites sont en train d'être écoulées. Et j'ai dit aux jeunes qui sont ici que si votre téléphone ne vous sert qu'à voir les statuts d'autrui, qu'avoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que ça ne vous rapporte rien, vendez-les. Allez acheter quelques poules, cherchez là où il y a de l'espace, placez-les là-bas. Ça n'a pas besoin d'un vétérinaire. Nous avons même des traitements traditionnels que nous avons appris de nos parents. Et à la fin de l'année, ça va se multiplier et vous allez acheter notre téléphone tout en ayant multiplié votre patrimoine. Et donc, il y a encore de l'espace pour vous. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, les besoins ne sont pas assez répondus. Cinquième point, pourquoi entreprendre? Nous avons beaucoup d'opportunités d'affaires qui attirent toutes les nationalités du monde. Chaque fois que je suis dans un avion qui vient de l'extérieur avec l'escale d'Addis Abeba à Goma, il y a toujours beaucoup d'expatriés qui viennent à Goma, ou à Lubumbashi, ou à Kinshasa. Et quand vous essayez de les approcher, ils viennent pour des opportunités diverses que nous ne voyons pas. Et je me pose la question, nous plaignons qu'il y a l'insécurité, mais pourquoi eux, ils viennent? Ils quittent là où il y a la paix et ils viennent là où nous plaignons qu'il y a l'insécurité. Ils viennent s'installer avec nous. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, les marchés sont saturés. Et nous qui sommes là, nous continuons à nous plaindre. J'espère que tout celui qui aura participé à ce séminaire n'aura plus une attitude plaintive. Donc vous allez cesser de vous plaindre pour vous engager dans une activité qui va améliorer votre situation socio-économique. Le marché est très ouvert pour tout ce que nous pouvons y apporter. Vous savez que maintenant, nos voisins de l'autre côté, il arrive qu'on décharge un conteneur et on donne à chaque femme une quantité X. Et au bout de quelques heures, ça s'épuise. Et nous, les Congolais, nous sommes là, nous nous plaignons que ça ne marche pas. Et pour finir avec ce point, pourquoi entreprendre? Pourquoi nous devons entreprendre? L'entrepreneuriat nous conduit à l'indépendance financière. Nous avons prouvé que les salaires est calculé pour nous aider à vivre normalement, pas à long terme, parce qu'à long terme, c'est la sécurité sociale. Et l'éducation financière nous parle même de 6 mois, qu'il faut épargner, avoir votre revenu fois 6. C'est difficile d'aller au-delà de ça. La preuve est que peu ceux qui sont en mesure d'avoir ces matelas financiers. Si on faisait un sondage ici, confidentiel, combien ont dans leur compte 6 fois leurs revenus? Donc les soldes du compte auxquels vous ne voulez pas toucher. La preuve est que si vous demandez au banquier, lorsque les salaires sont versés, ça prend combien de temps pour que ça soit retiré du compte en RDC? Pourquoi on voit les enseignants ici dans les banques jusqu'à 21h? Moi, ça me choque. Je vois des enseignants jusqu'à 21h, on attend toucher les salaires. C'est parce qu'on a déjà vidé ce qu'on a reçu les mois passés. Il y a même des créanciers qui les attendent là-bas. Vous n'avez pas suivi récemment l'incident à Kinshasa de l'homme qui avait des cartes de crédit, combien? Une trentaine. Et il s'est bien défendu qu'il y a ses collègues qui viennent se dépanner auprès de lui et comme des fois il ne remboursait pas, il prend comme gage la carte de crédit et les mots de passe. Alors, à la fin du mois, il va retirer, si vous avez touché 300 000 francs et que vous aviez emprunté 100 000, vous retournez, il vous retourne vos 300 000, mais il retire son 100 000, il vous donne, et puis il dit, gardez encore la carte, parce que vers les 10, il viendra encore vous demander. Et c'est devenu un cycle, et on appelle ça cercle vicieux de l'endettement. Pourquoi? Parce que seul l'entrepreneuriat peut nous conduire à l'indépendance financière. Donc, c'est un appel à tout et chacun de nous ici de voir comment je vais m'y lancer. Maintenant, vous allez vous poser la question, je vais m'y lancer comment? Dans le quatrième point, nous allons vous partager quelques options avant de clôturer par nous partager comment nous allons nous comporter pour réussir. Alors, quatrième point, première option, nous avons l'agriculture, l'élevage et la pêche. En fait, ces trois activités, ce sont des activités qui réussissent partout. Pourquoi ? Parce que nous avons tous besoin de manger et nous mangeons au quotidien. Emery, toi, tu es dans le domaine des poissons. À Goma, nous produisons quelle quantité ? On couvre la production locale des poissons. Couvre combien de pourcents de la consommation ? Est-ce qu'on couvre 10% même aujourd'hui ? Aujourd'hui, nos pêcheries ne couvrent même plus 10%. Donc, 90% des poissons que nous consommons, ça vient d'où ? De l'extérieur. Et les poissons, c'est parmi les espèces qui se reproduisent les plus vite, parce que dans un poisson, on peut trouver combien d'œufs ? Jusqu'à 1000. Et il y a ceux qui nous ont prouvé qu'avec la présence du lac, ils pouvaient louer un espace et entretenir des cages et faire l'élevage sous cage. Et si vous avez une grande parcelle, vous pouvez faire les forages, parce que maintenant les forages se font à Goma, vous pouvez avoir un état piscicole. Et les poissons, ça se multiplie. Mais aujourd'hui, nous importons presque tous les poissons que nous consommons. Parce qu'à l'époque, avant le 94, avant la catastrophe, la crise des réfugiés rwandais en 1994, nous étions presque autant suffisants. Donc les pêcheries de Nyakakoma et Vichumbi nous alimentaient à poissons à quantité suffisante. Mais depuis qu'il y a eu cette masse de la population, avec l'expansion géographique, avec la destruction de l'écosystème, notre production des poissons est très en dessous des besoins. Donc c'est un domaine où vous pouvez vous lancer. Et parlant de l'agriculture, là, il y a plein de choses à faire. Les potagers, les légumineuses et consorts. Alors, si vous ne voulez pas produire, vous pouvez faire la transformation des produits agricoles. Ceux qui font du jus aujourd'hui, purée de tomates, beurre d'arachide, ou bien semoule de farine, des maïs, ainsi de suite. Et si vous ne voulez pas manipuler tout ce qui est, vous voulez ce qui est virtuel, nous avons les services. Et dans les services, nous avons le transport. Donc, si vous ne voulez pas être dans les activités très manuelles, nous avons les services, notamment les transports, la restauration, la couture. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir un atelier de couture sans être couturier ? Est-ce que vous savez ça? Je connais une dame de Goma qui a un grand atelier de couture de référence, mais elle n'est pas couturière. Elle, son rôle, elle sélectionne les grands couturiers et elle est en connexion avec des clients et elle fait descendre son business. La coiffure, les médias, ceux qui font la photographie. Aujourd'hui, la photographie, c'est parmi les domaines qui payent beaucoup. Les garages automobiles, la plomberie. La plomberie, c'est un des services négligés, mais qui rapporte beaucoup. Est-ce que vous êtes informé? Et nous avons trop peu de plombiers. Moi, ça m'arrive d'appeler un plombier et qu'il me dise, je serai disponible après une semaine. Mais vous pouvez créer une entreprise de plomberie avec un petit site web et les gens vont chercher et recourir à vos services. La maintenance électrique, ce sont des services qui n'existent pas chez nous. Un service professionnel dédié à la maintenance électrique. L'entretien et le nettoyage, c'est un domaine dans lequel je me suis développé et c'est un domaine très rentable et porteur. Le gardiennage, la sécurité, la garderie des enfants, et ainsi de suite. Voilà autant d'options dans lesquelles nous pouvons entreprendre. Comme il y en a encore plusieurs, nous avons l'industrie. La savonnerie, vous pouvez développer la production des savons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'y lancent et qui font des bonnes affaires. La peinture, et là je vois Emery, et qui nous a bien peint les temples. La briqueterie, c'est un domaine très rentable. La production des briques, des blocs, des pavés. La confection des tenues de travail. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sociétés de gardiennage, mais êtes-vous informé que toutes ces sociétés importent les tenues de leurs gardiens? Et maman Berthe, vous avez talent dans la couture. Vous pouvez créer ces sociétés-là. Donc, vous créez, vous achetez des grosses machines et vous commencez à produire les tenues de ceux qui font la sécurité, les gardiens. Ça demande un peu d'investissement parce qu'il faut des machines un peu modernes. C'est un projet que je voudrais entretenir au Katanga. Je voudrais lancer au Katanga une unité de confection des tenues des ouvriers. Et au Katanga, le budget moyen par ouvrier, ça peut aller jusqu'à $100 par an. Et donc, si vous avez 300 000 ouvriers, c'est combien? C'est un marché de 30 millions de dollars. Mais il y a des étrangers qui se sont spécialisés dans ça parce que nous, les Congolais, nous ne voyons pas. Et ça ne demande pas des gros investissements. Et donc, si vous n'avez pas besoin d'être couturier pour le faire. C'est juste prendre quelques bons couturiers, les encadrer, acheter des machines, chercher des intrants et faire des offres. Vous commencez à produire les équipements. Ça fait partie du plan stratégique de notre entreprise. La santé et l'environnement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous voyons maintenant beaucoup d'étrangers qui investissent dans les hôpitaux modernes. Dans l'environnement, nous avons aussi la gestion des déchets, un domaine dans lequel j'ai évolué depuis plus de 15 ans. L'éducation, c'est vrai, notre loi dit que l'éducation est gratuite, mais nous savons ce qui se fait avec les écoles privées. C'est un domaine aussi, entre guillemets, où on peut faire l'entrepreneuriat social. Nous avons le numérique, le digital, j'en ai parlé hier. Donc, si vous ne voulez pas, vous voulez être dans le virtuel pur, vous avez le numérique et le digital, vous pouvez avoir votre business à partir de votre tablette, de votre smartphone, vous pouvez faire de l'argent et il y a plein d'options comment y aller. Nous avons maintenant, pour terminer, la microfinance, banque et finance. C'est un domaine aussi que les Congolais ont laissé aux étrangers, mais c'est l'un des plus porteurs. Et je félicite la CBK avec l'initiative de la bonne moisson, mais c'est encore limité par rapport aux besoins. Donc nous avons besoin aussi que les chrétiens, dès que nous aurons des business qui réussissent, il faudrait qu'on se mette ensemble pour se lancer aussi dans ce domaine des finances, banques et consorts. Maintenant, pour clôturer aujourd'hui, il nous reste 3 minutes, nous allons voir quelques facteurs favorables à la réussite dans l'entrepreneuriat. Le premier facteur, c'est faire un bon choix de votre projet. Vous voyez, nous avons donné beaucoup d'exemples, beaucoup d'options. Mais ce n'est pas que chaque option est bonne pour vous. Une option peut être bonne pour moi et pas bonne pour vous. Alors souvent, il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont mal choisi les projets. Il a voulu faire disons, le savon, alors que son talent est dans l'élevage. Ou bien il a voulu faire l'élevage alors que son talent est dans la couture. Ou bien il veut faire la couture alors que son talent est dans la coiffure. Donc, premier élément pour réussir, c'est de faire un choix de ce dont vous êtes passionné. Et ce choix dépend de quoi? Ce choix dépend de vos connaissances et de vos compétences. Si vous avez des compétences dans ce domaine X, vous serez prédisposé à réussir que celui qui s'y est lancé sans ces compétences-là. Deuxième facteur, c'est faire une bonne analyse de votre opportunité que vous voulez développer. Et cette analyse va être faite de plusieurs façons. C'est de vérifier. Je vais faire l'élevage des poules. Est-ce que je m'y connais en technique? Est-ce que j'ai le temps qu'il faut pour suivre efficacement? Est-ce que j'aurai quelqu'un qui va développer ça? Est-ce que j'aurai un espace? Vous allez vous poser plusieurs questions et en y répondant, si vous avez des réponses correctes, vous pouvez dire, voilà, je peux y aller. Troisième point. Nous les trouvons dans Psaume 127, 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent à 20. Bâtissons avec l'Éternel. Donc avant de m'y lancer, je prends le temps de prier. Seigneur Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je me lance dans ceci? Combien avant de lancer une activité ont pris une journée de jeûne? Vous êtes allé en retraite, vous avez pris une journée de prière, vous êtes isolé pour demander à Dieu de vous accompagner. Ou bien que Dieu vous... Vous voulez que Dieu vous révèle est-ce que vraiment c'est ça sa volonté dans laquelle vous voulez vous engager? Et la Bible est claire, nous devons bâtir avec l'Éternel. Parce que c'est en vain si nous bâtissons sans l'Éternel. Quatrième point, c'est être décisif, déterminé et moins craintif. Je connais beaucoup qui ont des bons projets dans les têtes. Et il est dit que dans nos cimetières, il y a beaucoup de projets. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup qui sont morts, enterrés avec des projets dans leur tête. Parce qu'ils n'étaient pas décisifs. Nous devons être décisifs, déterminés et moins craintifs. Et là, nous voyons dans Matthieu 25, le troisième serviteur qui est allé enterrer les talents. Il avait peur. Et si vous êtes craintif, vous serez difficilement entrepreneur. Il faut prier que Dieu vous aide à ne pas avoir la peur. Je vous ai dit que les entrepreneurs sont les gens qui pratiquent la foi. C'est lui qui fait les restaurants avec self-service. Il prépare un grand buffet. Il commence à 8 heures. Il commence à préparer des casseroles, de ceci et cela. Avec la foi qu'à partir de 12 heures, les gens viendront faire quoi? Manger. Ah, c'est une grande foi, je vous rassure. Cinquième facteur pour réussir, c'est de commencer petit avec les moyens de bord, mais étant animé d'une grande vision pour le futur. Si vous voulez être les fabricants des tenues de confection pour tous les ouvriers, commencez petit. Commencez à faire d'abord quelques blouses pour les infirmiers, les médecins. Commencez à faire les tabliers pour les gens qui sont dans les restaurants. Et avec le temps, vous allez vous développer. Avoir les goûts, prendre l'expérience et avoir des moyens. Sixième point, être disponible pour développer votre nouveau projet. Il y a plusieurs qui ont échoué parce qu'il a commencé un bon projet, mais il n'avait pas le temps de le suivre. Nous avons toujours dit que de commencer un nouveau projet entrepreneurial vous demande autant de disponibilité qu'une mère dédie son temps au nouveau bébé, nouveau-né. Combien de temps une mère dédie au nouveau-né? Combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour? C'est 24 heures sur 24. Quand vous commencez un nouveau projet, ça vous exige combien? Ah, nous, quand on commence, des fois à la nuit, vous prenez votre note pour que vous commencez à noter des idées qui arrivent. Des fois, vous rêvez ce que vous allez faire demain. Donc, ça veut dire que 24 heures sur 24, vous êtes plongé. Et le matin, vous êtes pressé de vous réveiller. Moi, le projet qu'on a commencé en 2008, je me souviens, j'ai compté plus de 30 nuits au bureau. J'étais seulement passionné, je suis en train de faire un travail de conception. Et je me rends compte que je n'ai pas avancé. Heureusement, j'étais encore célibataire. Et ça m'a aidé à faire des exploits dans ce domaine-là. De l'environnement et de la gestion des déchets. Et j'en étais tellement passionné. Septième facteur pour réussir, choisir une bonne équipe pour la gestion de votre projet et son développement. Et surtout, bien traiter cette équipe-là. Il y a plusieurs qui ont commencé un bon projet, surtout vous avez commencé une savonnerie, vous avez développé une bonne formule. Mais si vous ne payez pas vos agents là, ils vont aller vous dupliquer la formule. Et demain, ils deviennent vos concurrents. Et si vous ne les payez pas bien, ils ne vont pas prier pour vous. Vous savez, quand vous traitez bien ceux qui travaillent pour vous, vous avez aussi l'avantage, ils prient pour vous. Je connais qui ont des employés qui prient dans les verses. Ils prient, Seigneur Dieu, débarrasse-moi de cet employeur le plus vite que possible. Si c'est ça la prière de vos employés, c'est que vous êtes en train de rater quoi? Bénédiction. Mais il faut que quand ils reçoivent, ils prient, Seigneur Dieu, bénis-les encore pour qu'il ajoute encore sur ce que je reçois. Et qu'il en ait toujours, que j'en reçoive toujours en temps. C'est très important. Huitième point, choisir des bons partenaires. Il y en a qui ont échoué, ils ont choisi des mauvais partenaires. J'en connais qui ont eu quelqu'un sur Internet, il fait un contrat, il a vendu une commande et l'argent n'est jamais arrivé, la livraison n'a jamais été faite. Il est tombé entre les mains de ce qu'on appelle les frappeurs. Ayons le temps de censurer avant de signer un contrat avec un partenaire. Est-ce que ce partenaire partage mes valeurs? Il y en a qui ont fait chute parce que le partenaire les a amenés dans les conflits et dans les batailles et ça, ils se sont disloqués et tout est resté dans les cendres. Neuvième point pour réussir, pratiquer la bonne gouvernance. La bonne gouvernance sont des principes de bonne gestion. Et dans les principes de bonne gestion, nous disons il faut séparer votre poche et la poche de l'entreprise. Et la bonne gouvernance, c'est tous ces principes-là de bonne gestion. Ne pas aller toucher dans la caisse n'importe quand et n'importe comment. Je connais des employeurs où soit vous êtes un ingénieur, les jours de paie des ouvriers, vous fermez le téléphone. Il y en a des comme ça, non? Alors vous pensez que ces gens sont en train de vous bénir, sont en train de vous maudire. Et ils savent que vous avez été payé, mais vous fermez quoi? Le téléphone. Ce n'est pas bon, il faut vraiment avoir la bonne gouvernance. Parce que l'argent a été utilisé d'une autre façon. Donc vous avez détourné l'argent qui leur est dédié. Dixième point, bien analyser toute décision de prise de crédit. La vie de l'entrepreneur vous implique aussi des fois recourir au crédit. Mais nous avons vu qu'il faut bien analyser et être sage lorsque c'est le cas. Évitez la diversification prématurée. Donc vous faites l'élevage des poules, vous n'avez pas encore maîtrisé, vous associez les dindons, vous associez les canards, vous associez la caille, ça risque de vous, ça va vous échapper. Allez-y, mollo, mollo. Plus vous maîtrisez, vous allez à une autre étape, ainsi de suite. Diversifiez votre portefeuille quand l'activité est maîtrisée. Quand vous aurez 10 000 têtes de poules, il faut commencer maintenant les dindons. Parce qu'avoir 100 000 têtes de poules seulement, c'est aussi risqué. Et pour terminer, restez attachés à vos valeurs. Et parmi ces valeurs, nous avons aussi et surtout nos valeurs comme chrétiens. La crainte de l'Éternel dans votre business. Est-ce que vous avez ces valeurs-là? Est-ce que vous vous y attachez? C'est dangereux lorsque vous êtes chrétien et que vous avez commencé votre vie d'entrepreneur. Vous, quand vous êtes sur le champ d'entrepreneur, vous mettez à côté, entre parenthèses, votre vie chrétienne. Vous dites aussi comme les autres, tous les coups sont permis. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. À prendre des bonnes décisions par rapport à l'entrepreneuriat. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir des bonnes opportunités qui conviennent à nous. Et que Dieu nous aide à prendre des bonnes décisions lorsque nous allons commencer. Et que lorsque nous allons commencer, que Dieu nous aide à bien gérer ce qui va nous aider à entreprendre. Et que cela puisse contribuer non seulement à notre bien-être, mais aussi au bien-être de ceux qui nous entourent et à l'épanouissement du royaume de Dieu à travers l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen.